Tu veux nous attirer toujours plus près de toi. Seigneur, tu as prévu toi-même ces rencontres, que ces moments soient vraiment un moment où nos cœurs s'approchent toujours plus de toi, que nous soyons réchauffés toujours plus par ton amour et par ta parole. Seigneur, tu es venu nous rencontrer pendant ce week-end. Et nous te remercions pour tout ce que tu veux faire. Nous voulons simplement t'ouvrir nos cœurs et nous attendre à toi, Seigneur. Car c'est de toi que viennent toutes bénédictions. L'homme ne peut rien, Seigneur, mais toi, tu peux tout. Merci pour ta présence. Inspire le message, Seigneur. Celui que tu as préparé pour chacun d'entre nous cet après-midi, celui que tu as préparé, Seigneur. Mets ton onction sainte sur chaque mot qui seront dit et sur chaque personne ici, afin que tes paroles portent du fruit et un fruit qui demeure. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prendrons donc du temps, comme on l'a dit tout à l'heure, à prier. Après chaque réunion, nous prendrons un moment pour prier pour les personnes qui le désirent. Mais avant la prière, vous le savez, le Seigneur passait toujours beaucoup de temps à enseigner son peuple. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Il est donc important que nous soyons à l'écoute de cette parole, afin que nos cœurs s'orientent vers le Seigneur et non pas vers un homme car sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire, et je ne peux absolument rien faire. Nous sommes là tous ensemble à regarder au Seigneur et à lui seul. Amen. Nous sommes faibles, mais sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse, afin que toute la gloire lui en revienne. Il est près de nous cet après-midi. Il connaît tes besoins, mais ne regarde pas à l'homme, ne regarde pas en toi, regarde au Seigneur. Il veut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. N'est-ce pas merveilleux? Bien souvent, nous pensons que Dieu est limité à ce que nous demandons ou à ce que nous pensons, n'est-ce pas vrai? Mais Dieu est plus grand que cela, heureusement, n'est-ce pas vrai? Il peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Ainsi, laissons-nous sonder par sa parole. Même pendant la prédication de sa parole, le Seigneur peut agir dans ta vie, peut te guérir, peut te parler, te consoler. Dieu n'est pas limité seulement par l'imposition des mains. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si nous, nous veillons sur cette parole pour la recevoir et la mettre en pratique, lui veille sur cette parole pour l'accomplir. Amen. Il n'y a rien de magique avec le Seigneur. Ce n'est pas une loterie où on dit « Ah, peut-être qu'aujourd'hui ça va marcher. La bénédiction que je désire depuis tant d'années, ah, peut-être qu'aujourd'hui ça va marcher. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur n'est pas une loterie. Dieu agit lorsque nos cœurs s'ouvrent et que nous sommes disposés à lui obéir et à le glorifier dans nos vies. Amen. Alléluia. Et j'aimerais que on lise un passage dans les Actes des Apôtres. Vous savez, quand nous commençons une mission, j'aime toujours commencer par le commencement. Vous savez, quand on bâtit une maison, est-ce qu'on commence par le toit? Non, jamais. Vous avez vu quelqu'un bâtir une maison en commençant par le toit? Il faut toujours mettre les fondements, n'est-ce pas vrai? Eh bien, pour cette convention, nous allons mettre des fondements. Et le fondement est tout simple. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Beaucoup de gens aujourd'hui se disent chrétiens, n'est-ce pas vrai? Et ne le sont pas. Vous le savez comme moi, n'est-ce pas vrai? Beaucoup des multitudes se font des illusions et seront perdus. Et maintenant même, dans les ténèbres de l'enfer, des multitudes pleurent et grincent des dents. Si j'avais su, on m'a dit que j'étais un chrétien et je ne l'étais pas. On m'a trompé, on m'a trompé. On m'a fait croire que c'était suffisant. On m'a trompé. Des multitudes sont dans le désespoir pour l'éternité. N'est-ce pas tragique? S'il y a donc quelque chose que nous devons savoir, qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Nous pouvons ignorer 100 000 choses dans ce monde, car qui peut tout connaître, n'est-ce pas vrai? J'ignore des millions de choses. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, mais il y a une chose que nous ne devons pas ignorer, c'est de savoir qu'est-ce qu'un vrai chrétien. Et vous savez, dans la Bible, il y a la loi des premières mentions. Quand dans la Bible, un mot, un nom est mentionné pour la première fois, alors il y a là quelque chose de particulier. Quand ce nom est mentionné pour la première fois, c'est qu'il y a là, dans le contexte, tout un message qui nous révèle la signification profonde de ce nom. Alors pour cela, nous allons prendre le mot « chrétien » qui est mentionné pour la première fois dans les Actes des Apôtres. Vous le savez, pour la première fois, c'est où exactement? À Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est là, pour la première fois, que nous voyons cette mention de chrétiens. Ah, il y a donc quelque chose d'intéressant. S'il y a cette mention, c'est que dans tout le contexte, nous pouvons découvrir plusieurs vérités importantes qui vont nous révéler ce qu'est un vrai chrétien. Et je vais vous donner les sept racines de la foi d'un vrai chrétien. Je parle de racines parce que quand un vrai chrétien a vraiment sa foi dans la parole de Dieu, il est vraiment enraciné. Amen. Vous ne pouvez plus le déraciner. Alléluia. Il y a tant de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, et à la moindre tempête, j'allais dire même pas une tempête, moindre courant d'air, ils tombent déjà par terre. Plus rien du tout. Moindre contradiction, moindre opposition, et ils sont perdus. Oh, je ne sais plus où j'en suis, priez pour moi, priez pour moi. Vous savez, il y a des gens comme ça, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, et puis il faut prier pour eux toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, ils sont au téléphone, oh pasteur, priez pour moi, ça ne va plus du tout. Pasteur, on m'a dit quelque chose de mal, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Oh, priez pour moi, avant que je perde ma foi. J'exagère un petit peu, mais c'est bien souvent comme cela, n'est-ce pas vrai? Pourquoi cela? Pourquoi les premiers chrétiens avaient-ils cette foi enracinée? Revenons aux sources, mes amis. Nous en avons plus que jamais besoin. Amen. C'est à la source que l'eau est pure, limpide, fraîche, rafraîchissante. Alléluia. Si vous buvez à 10 km de la source, c'est pas bon à boire. Il y a de la paille, il y a du bois, il y a n'importe quoi. Il y a n'importe quoi. Vous ne pouvez pas la boire. Il faut boire à la source. Alors lisons quelques versets dans Actes 11 et à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Lisons attentivement ces versets, nous allons découvrir les 7 racines de la vraie foi d'un chrétien. 7. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, qui étant venus entre Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Retenez déjà cela, on va y revenir. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. On va y revenir. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, soulignez bien cela, on va y revenir, la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Soulignez bien cela aussi. C'est merveilleux, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Là aussi, un point important. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Là aussi, un point. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. À Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est parce qu'ils étaient disciples qu'ils furent appelés chrétiens. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ne sont pas du tout des disciples. N'est-ce pas vrai? Beaucoup se disent chrétiens, mais sont-ils disciples? Certainement pas. Et du temps de la parole des premiers chrétiens, c'était les disciples qui étaient appelés des chrétiens. Alors, quelles sont ces sept racines de la vraie foi d'un chrétien? Premièrement, nous allons trouver la première racine au verset 20, à la fin du verset 20. Il est dit « Ceux qui étaient venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Première racine de la foi d'un vrai chrétien, c'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle ». Un chrétien, c'est quelqu'un qui a entendu une bonne nouvelle. Alléluia! Pour beaucoup aujourd'hui, l'évangile n'est plus une bonne nouvelle, n'est-ce pas vrai? Pourquoi les gens ne viennent plus dans les églises? Parce qu'ils pensent que l'évangile est une triste nouvelle. Pourquoi? Parce que bien souvent, ils voient des tristes chrétiens, n'est-ce pas vrai? Un chrétien triste est un triste chrétien, comme on dit, n'est-ce pas? Première racine de la vraie foi d'un vrai chrétien, c'est l'écoute de la bonne nouvelle. Et pour ceux d'Antioche, ces gens qui étaient des païens et qui étaient des idolâtres, quand ces premiers sont arrivés, leur annoncer l'évangile et leur dire « Mais nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Quelle bonne nouvelle !» Vous savez, en ce temps-là, on entendait beaucoup parler de beaucoup de religions. Et ils parlaient d'un Dieu, ils parlaient de Jésus-Christ, ils parlaient de tout cela. On vous annonce une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Nous avons déjà notre religion. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre encore? Nous ne voulons pas encore une nouvelle religion. Nous en avons assez. Mais ces hommes avaient eux-mêmes expérimenté cette bonne nouvelle. Et on se dit, mais tu dis, ah non, non, attention, ça c'est spécial. C'est quelque chose de spécial qu'on vous apporte. Quoi, spécial? Jamais la bonne nouvelle n'avait encore été entendue. C'est la première fois qu'ils l'entendaient. Car ces hommes étaient religieux. Et dans la religion, qu'est-ce qu'on dit? La religion dit, fais, 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 et tu seras sauvé. N'est-ce pas vrai? Et ces gens à Antioche, ces idolâtres, ces païens qui avaient leur religion, pratiquaient continuellement cela. Il fallait faire des prières, il fallait faire des aumônes, il fallait faire des sacrifices, il fallait satisfaire telle idole, il fallait satisfaire telle autre idole païenne pour enfin espérer le pardon des péchés. Et ils étaient là toujours en train de faire, faire, faire. La religion dit toujours « fais et tu seras sauvé ». Vous savez, après 2000 ans de christianisme, il y en a qui en sont encore à ce même point. Après 2000 ans de christianisme, beaucoup de gens qui se disent chrétiens pensent qu'encore le salut, pour être sauvé, il faut faire, faire, faire. Fais ceci, fais cela, fais des bonnes œuvres, fais des prières, fais des sacrifices, fais ceci, cela, et alors peut-être que tu seras sauvé. Après 2000 ans de christianisme, mes amis, il y a encore des gens aujourd'hui qui n'ont pas compris ce qu'est la bonne nouvelle. Pas encore compris la bonne nouvelle. Que c'est tragique. La première racine d'une vraie foi chrétienne, c'est d'avoir entendu la bonne nouvelle. Alors, quelle était cette bonne nouvelle pour nos amis d'Antioche et pour ces païens de la première génération? Eh bien, il faut résumer, parce que l'on pourrait s'attarder un peu trop longtemps. Mais pour résumer ma pensée, c'est que la religion dit « fais, fais, fais » et tu seras sauvé. Ben, entre guillemets, on ne sera jamais sauvé. Mais l'évangile, qui est la bonne nouvelle, dit « c'est fait ». C'est fait, tu n'as plus rien à faire. Jésus a tout accompli. Et c'est ce que ces hommes ont entendu par ces premiers juifs qui étaient là pour leur annoncer la parole. Mais Jésus a tout accompli. Arrêtez de vous morfondre, de lutter, de souffrir, de chercher à plaire à Dieu par vos bonnes œuvres, par vos prières, par vos sacrifices. Arrêtez. L'homme pécheur ne peut pas purifier son propre péché. Toute notre justice n'est qu'un linge souillé devant Dieu. Amen. Ils leur ont dit, arrêtez, nous avons une bonne nouvelle. Vous êtes en train toujours faire ceci, je dois faire. Si je ne fais pas, je ne peux pas me sauver moi-même. Non, ça c'est la religion qui dit fais, et tu seras sauvé. Mais l'évangile dit, c'est fait.
Alléluia.
Alléluia. Ah, Jésus sur la croix s'est écrié, tout est accompli. C'est merveilleux. Et il leur disait, arrêtez, on a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout accompli pour le pardon de vos péchés. Vous ne pouvez pas vous-même pardonner vos propres péchés par vos prières, par vos souffrances ou par votre religion. Votre idole ne peut pas vous transformer ni pardonner vos péchés. Un seul est venu sur la terre, Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ, lui a payé ta dette. Et lorsqu'il est mort sur la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Et cette parole peut se traduire, tout est parfaitement parfait. Alléluia. Il venait d'accomplir le salut de l'homme. Et l'homme n'a plus rien à ajouter. L'œuvre de Golgotha est parfaite. Nous n'avons plus qu'à croire et à recevoir ce glorieux salut. Alléluia. N'était-ce pas une bonne nouvelle? Et pour ces premiers païens, ils disaient, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Oui, c'est beau et c'est vrai en même temps. C'est l'évangile. Alléluia. Et une bonne nouvelle rend toujours joyeux, n'est-ce pas vrai? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, entre guillemets, fondent encore leur foi sur leur religion et leurs propres œuvres? Voilà pourquoi ces gens-là qui croient cela ne sont pas de vrais chrétiens. Le vrai chrétien est celui qui a entendu la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle dit, je le répète pour terminer, la religion dit « fais, et tu seras sauvé ». Mais l'évangile dit, c'est fait. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Il a tout accompli et c'est gratuit. Il leur disait, c'est gratuit. Mais on n'a pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ou les gens aujourd'hui, c'est ça. Oui, vous me dites, c'est bien, c'est gratuit, d'accord. Mais il faut que je paye un petit peu quand même. Est-ce que je n'ai pas à mettre 5 petits sous? Vous voyez, l'homme est tellement orgueilleux qu'il ne veut pas accepter que Dieu lui donne gratuitement cela. On est tellement imbu de nous-mêmes qu'on veut mériter notre salut, mériter un tant soit peu le pardon de nos péchés, n'est-ce pas vrai? Et c'est pourquoi des multitudes de personnes religieuses qui se disent chrétiennes, mais sont perdues, parce qu'ils rejettent la bonne nouvelle. Il dit, ah non, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop facile. Combien de fois je l'ai entendu? Ça, c'est trop facile, monsieur. Trop facile. Il faut que je souffre un petit peu. Il faut que je me morfonde un petit peu. Il faut que je me flagelle un petit peu. Il faut que je marche un peu. J'avance un peu sur mes genoux. Ça fait mal. Ça fait mal un peu. Ça veut dire, il faut que le sang coule un petit peu. Là, alors, à ce moment-là, ah, Seigneur, tu vois ce que j'ai fait. Tu peux me pardonner, je l'espère. Et en disant cela, nous déshonorons son sacrifice. C'est comme si nous disions, Jésus, tes souffrances ne sont pas suffisantes. Il faut que je souffre encore. Tu n'as pas tout payé. Il faut que je paye encore. C'est le plus grand déshonneur et le plus grand affront que l'on fait à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Première racine du vrai chrétien, la bonne nouvelle. Il a tout accompli. C'est gratuit. Alléluia. Et c'est pour tout le monde. Pour le pauvre comme pour le riche. Alléluia. Que celui qui a faim, que celui qui a soif vienne, qu'il boive. C'est pour tout le monde. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Rien du tout. Un jour, j'ai entendu ce témoignage. Un monsieur qui disait, j'ai mis 42 ans pour comprendre ce que Jésus a fait pour moi. 42 ans pour comprendre l'évangile. Et alors, voici ce qu'il disait. J'ai cru que je pouvais me sauver par moi-même. L'évangile me dit que je ne peux pas me sauver par moi-même. Moi, j'ai cru que je pouvais me sauver par moi-même. Deuxièmement, l'Évangile me dit que Dieu ne me demande même pas de faire quoi que ce soit pour me sauver. Et ça aussi, ça a été une lumière pour moi. Et troisièmement, l'Évangile me dit que Jésus a tout accompli pour que je sois sauvé. Je n'ai plus qu'à me repentir de mon péché et à recevoir ce don extraordinaire que Jésus-Christ m'a acquis à la croix du calvaire par son sang précieux. Amen. Alléluia. 42 ans pour comprendre l'Évangile. Mieux vaut tard que jamais, vous êtes d'accord avec moi. Mais il y en a qui, au bout même de leur vie, n'arrivent pas à comprendre. Non, comment ça? Non, c'est trop simple. Et il passe à côté de la bonne nouvelle. Il a tout accompli, mon ami. Ne mets pas ta confiance dans ta religion. Ne mets pas, quelle qu'elle soit. Aucune religion ne peut sauver. Aucune religion. Ton nom peut être inscrit dans le livre d'une église. Mais s'il n'est pas inscrit dans le livre de vie, dans les cieux, tu seras perdu. Ah oui, mais on m'a dit comment j'étais sauvé. On m'a dit. Ah, on t'a dit. Ah oui. Et tu ne vérifies pas ce qu'on te dit. Et selon la parole, on m'a dit, reste tranquille, ça va. Tu es né dans telle église, tu es né dans telle religion. Tu dois mourir dans cette religion. La seule chose qu'on te demande, c'est que tu viennes, de temps en temps, mais à la collecte surtout, parce que pour que tu sois un bon. Si tu ne mets pas grand-chose, ça ne marche pas. Si tu en mets pas mal, ça ira tout ira bien. Tout est intéressé. Mais on ne s'occupe pas de son âme. Est-ce qu'on a entendu la bonne nouvelle? Si l'Évangile n'a pas été pour toi une bonne nouvelle, tu n'as pas entendu le vrai Évangile. L'Évangile, comme ses premiers, merveilleux, j'ai plus rien à faire qu'à nous repentir et à recevoir ce que Dieu a préparé dans son amour. Amen. Le don de Dieu, la vie éternelle. Mes amis, quand vous aimez quelqu'un et que vous faites un don à ce quelqu'un et que cette personne dise « Oh, non, merci, il n'y a rien de tel pour vous faire souffrir, pour vous briser le cœur, n'est-ce pas vrai ?» Et Dieu nous offre ce don. Ce salut est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Ne l'oublions pas. Certaines personnes disent « Ah oui, ça c'est trop facile. » Quand on dit « Il est gratuit, c'est trop facile. » Mes amis, il est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Il est gratuit pour nous parce que nous ne pouvons jamais payer notre salut. Il est gratuit parce qu'on ne pourra jamais le payer. As-tu compris cela? Avons-nous compris cela? Il en va de l'éternité de notre âme. Il est gratuit, mais pas bon marché. Il est gratuit pour toi, pour moi, parce que je ne pouvais pas payer ce salut. Le rachat d'une âme coûte trop cher. L'homme ne pourra pas payer son rachat. Mais il n'est pas bon marché. Nous avons été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Mes amis, considérons ce que Jésus a fait pour nous. La bonne nouvelle. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Amen. Amen. Que nous soyons pécheurs, perdus, et qu'on vienne nous dire, mais tu ne peux rien faire pour te sauver. Ta religion ne te sauvera jamais. Repens-toi et reçois le salut que Jésus t'offre et qu'il t'a acquis par sa mort expiatoire. Crois-le. Reçois-le et réjouis-toi de ce pardon total et définitif. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Alléluia! La bonne nouvelle! La bonne nouvelle! C'est cela la bonne nouvelle. Dieu a tout accompli parce que nous ne pouvons rien faire nous-mêmes. La deuxième racine de la foi d'un vrai chrétien, nous la trouvons au verset 21, en suivant, quand ils ont entendu cette bonne nouvelle, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui disent, moi, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère étaient comme ça, moi je mourrais dans ma religion. Est-ce que vous n'avez pas entendu cela? Ça c'est tragique. C'est à faire rire, mais c'est à faire pleurer aussi. On peut avoir la mauvaise réaction. Par orgueil. Comment? Moi? Vous voulez dire que je me suis trompé? Ah, monsieur, madame, ne veut pas admettre qu'il ou qu'elle s'est trompée. Oh, c'est trop demandé. Et c'est l'orgueil, notre orgueil, qui nous joue des tours et qui nous empêchera d'entrer au ciel. Mais eux, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit, ils entendirent la bonne nouvelle. Ensuite, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Deuxième racine de la foi d'un vrai chrétien maintenant, c'est sa conversion à Jésus-Christ. Ta religion, sans être converti à Jésus-Christ, et il se convertira à Jésus-Christ. C'est la deuxième racine. Quand ils ont entendu une telle nouvelle, ils ont eu la bonne réaction. Ils ont dit, mais comment? Pas possible. Quelqu'un qui m'a aimé comme cela. Un jour, j'ai lu le témoignage d'une dame qui avait vécu dans la débauche. Elle avait entendu ce message de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette dame qui vivait dans la débauche a dit, quand elle a compris l'amour de la croix, combien Jésus a dû souffrir pour pardonner ses péchés, elle a dit, s'il est mort pour moi et qu'il a dû payer un si grand prix pour me sauver, désormais, ma vie lui appartient. Je veux le suivre et lui obéir tous les jours de ma vie. Amen. Voilà la bonne réaction. Amen. La conversion devant une telle bonne nouvelle. Mes amis, il n'y a qu'une réaction logique, normale. Seigneur, me voici. Le mot conversion, vous savez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Se convertir, c'est changer de direction dans sa vie. Et quand on change de direction, on change de vie. Amen. On change même d'amis. On change d'attitude, de comportement. Se convertir à Jésus-Christ, cela veut dire que nous quittons le chemin large et spacieux qui mène à la perdition pour prendre le chemin étroit et resserré. Il y en a peu qui le trouvent, mais ce chemin mène à la vie éternelle. Amen. Il y en a peu qui le trouvent. Sur ce chemin-là, on est pointé du doigt, tandis que sur le chemin large, on ne nous pointe pas du doigt. On est perdu dans la masse. Et nous ne voulons pas qu'on nous pointe du doigt. Nous ne voulons pas qu'on nous dise « Ah, toi, tu es un chrétien, toi, tu es... Ah oui ?» On ne n'aime pas qu'on se moque de nous. Et cependant, le vrai chrétien accepte de passer par là. Amen. Ici-bas, ce sera la croix, mais là-haut, ce sera la gloire pour l'éternité. Amen. Alléluia. Deuxième racine, la conversion à Jésus-Christ. Mes amis, es-tu converti vraiment à Jésus-Christ? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as donné vraiment ta vie au Seigneur 100% pour lui dire, à partir de maintenant, je change. Je change de vie. Quelqu'un qui s'est dit converti et dont la vie n'est pas changée, n'est pas converti. Je ne veux pas dire qu'on doit être parfait, nul n'est parfait. Mais il faut que nous puissions dire comme l'aveugle, autrefois j'étais aveugle et maintenant je vois. Autrefois j'étais dans les ténèbres et maintenant je suis dans la lumière. Autrefois j'étais un pécheur, un esclave. Je vivais loin de mon Dieu, loin de mon Sauveur. Mais maintenant, quelque chose s'est passé, je ne suis plus le même. Sa grâce n'a pas été vaine envers moi. Alléluia. Je vais m'entendre l'apôtre Paul dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alléluia. Malheur à moi, si je n'annonce l'évangile, disait l'apôtre. Alléluia. Quel amour pour son Sauveur. La conversion à Jésus-Christ est simplement la réponse d'une âme à l'amour de son Sauveur à la croix. Amen. La conversion totale, radicale. Nous vivons un siècle où nous vivons dans des demi-mesures, n'est-ce pas vrai? Il ne faut pas trop exagérer. Il ne faut pas aller trop loin. C'est pas vrai? Pas aller trop loin. Pas aller trop loin. C'est comme si le mari qui aimait sa femme, on disait au mari, hé là, n'aime pas trop ta femme. N'aime pas trop ta femme. Ou l'épouse qui aime son mari, « Oh, va doucement, n'aime pas trop ton mari. » Est-ce qu'une femme peut aimer beaucoup son mari? Ou l'époux, est-ce qu'il peut beaucoup trop aimer sa femme? Ça n'existe pas. Au contraire, le problème, c'est un manque d'amour, c'est pas un trop plein d'amour. Le problème dans les couples, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas assez, parce qu'ils s'aiment trop. Le problème avec des chrétiens, soi-disant chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils aiment trop le Seigneur, c'est parce qu'ils ne l'aiment pas assez. Amen. Et si l'on commence à mettre des mesures et des demi-mesures avec le Seigneur, mes amis, il faut savoir où nous en sommes, si nous sommes de vrais chrétiens. Conversion à Jésus-Christ. Un changement radical. S'il a donné sa vie pour moi, je lui donne ma vie en retour. S'il est mort pour moi, je veux vivre pour lui et pour l'éternité avec lui. Amen. Voilà ce qu'est un vrai chrétien, mes amis. Voilà, ce chrétien-là est enraciné dans sa foi. Et nul ne le fera tomber. Mais s'il tombe, il tombera toujours à genoux. Il est permis que tu tombes, mais tombe à genoux. Au pied de ton maître. Et celui qui avance à genoux ne reculera jamais.
Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Il faut que j'avance un peu, sinon mes 7 points. Ah, troisième racine de du vrai chrétien. Troisième racine. Nous la trouvons au verset 23. Qu'est-ce qu'il est dit ? Le bruit en parvint jusqu'aux oreilles de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu. Voilà la troisième racine de la foi d'un vrai chrétien, la grâce de Dieu. La foi dans la grâce de Dieu. Barnabas, quand il est arrivé et qu'il a vu tous ces païens convertis, qui louaient Dieu et qui, quelque temps avant, étaient des idolâtres, des blasphémateurs, des adultères, des menteurs, des voleurs. Et qu'il arrive là et qu'il voit cet auditoire, qui loue le Seigneur, des anciens païens. Il a vu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Éphésiens 2, 8, 9, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut est une grâce, et non pas un salaire que vous méritez, mais une grâce que vous ne méritez pas et que vous ne mériterez jamais. Le mot « grâce » veut dire une faveur imméritée. Dieu nous accorde cette grâce. Cette faveur du pardon, de la vie éternelle. Parce que nous ne la méritons pas et que nous ne la mériterons jamais. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà mes amis, quand un chrétien a cru en la grâce de Dieu, ce chrétien-là ne se glorifie pas de lui-même, n'est-ce pas vrai? Il se glorifie en Jésus-Christ. Avez-vous remarqué les gens religieux qui ont leur petite religion, qui se disent chrétiens entre guillemets, ils ne font que se vanter de leur religion, n'est-ce pas vrai? Leur religion est toujours meilleure que celle du voisin, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, oh, la mienne est meilleure. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ils se vantent. Ils se vantent d'être meilleurs que les autres. Cela est une preuve que cette personne n'a pas connu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne nous rend pas meilleurs que les autres. La grâce de Dieu nous fait réaliser que nous sommes pires que les autres. Amen. Que nous sommes pires que les autres. Et que ce don que nous avons reçu est un cadeau que nous ne méritons pas. Alléluia. Mais alors attention, il y en a aussi qui se disent chrétiens et qui disent « Oh, moi je crois en la grâce de Dieu. » Mais vous savez, c'est l'autre extrême. Ils disent « Puisque Dieu m'aime et que je suis sauvé par grâce, alors... je peux faire ce que je veux, de temps en temps, quand je peux commettre certains péchés. Dieu est bon. » Regardez ça. Regardez le piège, le mensonge, la séduction. Dieu est bon. C'est le bon Dieu. Il est bon. C'est par grâce. Donc on peut commettre certaines choses. Ça ne fait rien. Il pardonnera. Non ! La grâce de Dieu ne nous conduit pas à marcher encore dans le péché. Mais la vraie grâce de Dieu nous éloigne du péché. Amen. Parce que nous avons compris combien notre maître a dû souffrir pour nous pardonner. Et quelqu'un qui joue avec le péché,
C'est quelqu'un qui n'a pas compris la grâce de Dieu.
Ah, ça fait rien, on peut. Dieu est bon, il pardonnera. Dieu est plein de grâce. Non, mon ami, il est plein de grâce, c'est vrai. Mais il ne tolérera jamais le péché dans ta vie. Parce que Dieu est un Dieu de sainteté aussi et de vérité. Amen. La grâce de Dieu, loin de nous faire en sorte que nous justifions le péché, la grâce de Dieu nous pousse à haïr le péché et à le condamner dans notre vie. Amen. C'est cela la grâce de Dieu. Alléluia. Et cette grâce nous fait réaliser que nous n'y sommes pour rien. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne. On ne se glorifie que du Seigneur. Amen. Au ciel, avez-vous lu l'Apocalypse ? Est-ce que vous voyez dans un coin du ciel quelqu'un qui est dans son petit coin en train de dire « Gloire, merci à ma religion, c'est ma religion et mes bonnes œuvres qui m'ont amené dans ce ciel. Ce sont mes bonnes œuvres, mes prières, le bien que j'ai fait à l'un et à l'autre. C'est cela qui m'a amené au ciel. » Est-ce que vous avez ça dans votre Bible, dans l'Apocalypse ? Amenez-moi, parce que je voudrais bien savoir s'il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, des multitudes croient qu'ils seront au ciel à cause de ce qu'ils ont fait, et non pas à cause de ce que Jésus a fait. Mais qu'est-ce que nous voyons dans le ciel ? La multitude qui est là, rachetée par le sang, avec des robes blanches, des palmes à la main, et qui louent l'agneau qui a été immolé, et qui disent... à l'agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. À lui soit la gloire, le règne et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Tous les regards sont vers l'agneau de Dieu. Et lorsque nous verrons ces marques, les marques de la croix de notre bien-aimé Maître et Sauveur, il nous dira, c'est pour toi que j'ai souffert. C'est pour toi, afin que tu puisses entrer dans ma gloire et puisses contempler ma face éternellement. Et nous comprendrons et nous dirons, oh oui, Seigneur, c'est vrai, c'est à cause de ton sacrifice, c'est à cause de ta mort expiatoire que je suis ici. Alléluia. Et nous le chanterons, et nous le bénirons, et personne ne pourra nous arrêter. Gloire et louange soient à notre Dieu. Amen. La grâce de Dieu transforme quelqu'un. Quatrième chose, quatrième racine. Au verset 23, qu'est-ce qu'il est dit ? Il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il, qu'est-ce qu'il a fait, Barnabas ? Et il... les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Quatrième racine de la foi d'un vrai chrétien, c'est la persévérance avec le Seigneur. Barnabas était franc avec ces nouveaux chrétiens, comme pour leur dire, c'est bien, vous avez reçu le Seigneur. Mais ne pensez pas que la vie chrétienne sera toute rose. Maintenant, vous vivez des temps merveilleux. Mais il peut y avoir. Vous aurez des problèmes, des persécutions. On se moquera de vous. Vous serez rejetés. Alors, sachez que ce n'est pas le tout de bien commencer. Il faut maintenant être attaché au Seigneur jusqu'à la fin de votre vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas le tout de bien commencer, mes amis. Il faut encore bien finir. Combien de chrétiens ont bien commencé ? Combien de chrétiens avaient des dons merveilleux même, des capacités extraordinaires ? Et ont fait même de grandes choses pour Dieu. Mais maintenant, ils sont sur la touche. Il n'y a plus rien du tout. Ils ne sont pas restés attachés au Seigneur dans l'épreuve, la tourmente, la tempête. Ils n'ont pas compris qu'il fallait persévérer. Un vrai chrétien persévère jusqu'à la fin. Amen. Il ne faut pas seulement être des chrétiens alléluia. Moi, je suis un chrétien alléluia. J'espère que vous êtes un chrétien alléluia. Mais aussi être un chrétien amen. Amen, Seigneur. Ta volonté soit faite, coûte que coûte, jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Voilà le vrai chrétien. C'est un chrétien, alléluia, et c'est un chrétien, amen.
Que faisons-nous d'extraordinaire quand nous suivons le Maître, quand tout va bien? Quand il nous bénit, quand il nous guérit, quand il nous donne un bon travail, une bonne maison, quand le porte-monnaie est rempli, et que nous le louons à ce moment-là, c'est bien, mais nous ne faisons rien d'extraordinaire. Donnez tout cela à un païen, il louera encore mieux que vous, le Seigneur. Encore mieux que vous. Bien souvent, nous sommes bénis comme cela, et nous n'avons même pas le courage de vraiment ouvrir notre bouche et de le louer. Mais le païen soit encore mieux faire que toi. Mais attention, que ce païen ne reçoive plus rien. Que ses besoins ne soient pas satisfaits, ses intérêts personnels, il va commencer à maudire Dieu. Et c'est là que nous voyons toute la différence entre un vrai chrétien et un faux chrétien. Le vrai chrétien, il loue le Seigneur quand tout va bien, mais il sait louer aussi le Seigneur quand tout va mal, quand tout se dresse contre lui, quand tous l'abandonnent, quand le ciel est fermé, quand la tempête gronde. Le vrai chrétien, il reste attaché au Seigneur d'un cœur ferme, la fermeté. Le vrai chrétien dit, jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Amen. Amen. Avez-vous dit cela dans le fond de votre cœur? Cela ne veut pas dire que nous allons mourir, mais êtes-vous prêt? Allez jusqu'au bout. Il y en a, comme j'ai lu une fois cette pensée, il y en a qui ont plus peur d'un éclat de rire que d'un éclat d'obus. Ils ont plus peur d'un éclat de rire, la moquerie, que d'un éclat d'obus. La moquerie, le mépris, ce sont des choses que certains ne peuvent pas accepter et qui disent, si c'est ça les chrétiens, eh bien je n'en veux plus. Et des multitudes sont sur la touche parce qu'ils ne sont pas restés d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Et c'est une bénédiction d'entendre cela dès le début de sa conversion. Amen.
Amen.
Beaucoup de gens aujourd'hui nous disent, et même des serviteurs, « Oh, venez au Seigneur, tout ira merveilleusement. Oh, ce sera extraordinaire, plus de problèmes, plus de combats, plus de difficultés. » Mensonge ! Jésus ne nous a jamais promis un voyage sans difficultés, sans tempête. Il nous a simplement assuré que nous arriverons de l'autre côté. Il nous a assuré que nous arriverons de l'autre côté, même dans la tempête, même dans l'épreuve. Il sera dans la barque avec toi. Ne quitte pas ta barque. Reste dans la barque. Tu ne couleras pas. La persévérance, c'est cela un vrai chrétien. Amen. Pas seulement quand Dieu me bénit. Seigneur, d'accord, ça va, hein, je suis prêt à te suivre si tu me bénis. Mais le jour où tu ne fais pas ce que je te demande, au revoir. Non, ce n'est pas ça un vrai chrétien. C'est pas ça un vrai chrétien. C'est un faux chrétien. Ça. Cinquièmement, je vais un peu vite maintenant. La cinquième racine. Et Barnabas, au verset 25, il est dit, Barnabas se rendit ensuite pour chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Alors la cinquième racine ici, c'est la communion avec les autres chrétiens. Ces premiers chrétiens, quand ils ont été convertis, ils se sont rassemblés entre eux. Amen. Et là, nous voyons cette communion fraternelle qui se manifestait lorsque ces premiers chrétiens se retrouvaient. Alors une cinquième racine de la vraie foi, c'est cette communion que nous recherchons avec les autres chrétiens qui ont fait cette même expérience que vous. Amen. Amen. Un chrétien ne peut pas vivre tout seul. Bien sûr, il y a des circonstances où ce n'est pas toujours facile, on ne peut pas toujours être dans les circonstances idéales. Mais lorsque cela est possible, tu dois rechercher la communion avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Pas avec n'importe qui. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pas un endroit où l'on prêche des fausses doctrines, n'importe quoi. Où ta foi va être empoisonnée. mais recherchent le Seigneur et invoquent le Seigneur avec ceux qui le recherchent d'un cœur pur. La communion, c'est indispensable. Un chrétien ne peut pas vivre tout seul. Quand l'occasion lui en est donnée, quand les circonstances sont là, qui peut le faire, il doit le faire. La fidélité dans la communion fraternelle, ça, c'est la racine de la foi d'un vrai chrétien. Amen. C'est ainsi que nous pouvons, dans cette communion-là, nous exhorter mutuellement, nous encourager mutuellement, nous fortifier mutuellement, nous corriger mutuellement. Lorsque nous n'avons qu'un but, glorifier le Seigneur et obéir à sa seule parole. Amen.
Amen.
Non pas en disant ce qu'on veut et en suivant n'importe qui. Car la vraie Église, la vraie Assemblée, c'est celle qui a le Seigneur au centre et la parole de Dieu au centre, le seul fondement.
Amen.
Sixième racine, au verset 26. Et l'ayant trouvé, donc, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Sixième racine, l'obéissance à la parole de Dieu. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Voyez-vous, ces premiers chrétiens, ils se sont convertis au Seigneur et leur seul désir, c'était quoi? C'était de grandir, de changer, d'obéir à la parole. Nous vivons des temps particuliers, vous le savez comme moi, mes amis, où beaucoup de chrétiens ne supportent plus l'enseignement et la saine doctrine. Combien de fois je l'ai entendu, vous l'avez certainement entendu. Oh, les questions de doctrine, mettez ça de côté. Enseignement, tout ça. Racontez-nous des choses où c'est très bien, des expériences formidables, et tout ça, surnaturel, ça d'accord. Mais la doctrine, ça c'est barbant. Nous n'en voulons pas. Celui qui parle comme cela est sur un terrain glissant, est sur du sable mouvant. Le vrai chrétien aime la parole de Dieu, aime la doctrine biblique, aime la saine doctrine, recherche la saine doctrine avant tout. La doctrine doit passer avant toute expérience, quelle qu'elle soit. Prêche la parole, insiste en tout temps, favorable ou non, car il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous vivons ces temps-là. Quand je vois un chrétien qui se dit soi-disant chrétien et qui ne supporte pas la saine doctrine, arrête avec ça. Et quelqu'un d'autre vienne et dire ah ouais, extraordinaire, moi, j'ai fait une expérience merveilleuse et tout ça. Ah voilà, j'ai vu, voilà, ils ont toujours des visions. Ils voient des choses extraordinaires. Et puis les gens, ils sont là, ah ouais, formidable, oula. On est prêt à croire n'importe quoi. Je ne veux pas dire que Dieu ne donne pas de vision. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des visions, qui ont besoin de révision. Beaucoup de visions de certains chrétiens ont besoin de révision. Justement parce qu'ils n'aiment pas la saine doctrine. Nous devons corriger toutes nos visions par la saine doctrine, en nous laissant enseigner par la parole de Dieu. Mes amis, écoutez-moi bien, je termine maintenant. Si la parole de Dieu ne peut pas nous enseigner, rien ne nous enseignera. Si la parole de Dieu ne peut pas te corriger, me corriger, si la parole de Dieu n'est pas suffisante pour nous corriger, alors, mes amis, notre situation est grave et désespérée. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut nous changer, plus rien qui peut nous corriger, n'est-ce pas vrai? Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui va me corriger? Il n'y a que la parole. Et si cette parole n'a plus d'effet sur moi, alors je suis dans une mauvaise situation. Pierre avait renié le maître, c'est vrai. Il avait renié le maître. Mais vous savez, quand il a vu Jésus et Jésus l'a regardé, et il est dit qu'il se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. La parole de Dieu avait encore un effet dans sa vie. Et c'est cela qui l'a ramené au maître. Amen. Voilà un vrai chrétien. La parole de Dieu a son effet. Mais beaucoup aujourd'hui, la parole de Dieu. L'étude biblique. Je ne suis pas intéressant. Tragique. C'est une tragédie. L'obéissance à la parole, l'amour de la parole. Amen, c'est ce qui nous gardera dans l'authenticité de notre foi. Sinon, nous allons accepter n'importe quoi. Et tôt ou tard, nous allons être emportés à tout vent de doctrine, comme beaucoup le sont aujourd'hui. D'où l'importance de bien connaître sa parole. Amen. Mes amis, ce n'est pas un luxe. Nous devons connaître notre parole, nous devons méditer et être comme les chrétiens de Bérée qui examinaient chaque jour dans les Écritures ce que Paul leur enseignait. Et c'est écrit ça, dans Actes 17. Ce que Paul, un apôtre, leur enseignait. Voyez-vous ? Si la parole de Dieu nous dit ça, ça veut dire que même si un apôtre vient au milieu de nous prêcher quelque chose, nous devons examiner ce qu'il prêche, si c'est conforme à la parole. Vous dites, oh, c'est un apôtre, Non, ça ne veut rien dire. Même l'apôtre peut prêcher de fausses doctrines. Et c'est là d'ailleurs le piège dans lequel tombent beaucoup de chrétiens. Oh, c'est l'apôtre extraordinaire, tout ça. On en met plein la vue. Et c'est comme ça qu'on trompe beaucoup de chrétiens. Et qu'ils courent à tout vent de doctrine et tombent dans des pièges. Il leur faudra des années pour qu'ils s'en sortent. Et s'ils s'en sortent encore. Ils examinaient chaque jour dans les Écritures. Et le mot examiner dans le texte grec, c'est un mot très fort. Ça veut dire examiner avec détail. Aujourd'hui, on prend des textes, on donne leur contexte, on fait dire à la Bible ce qu'on veut. On fait dire à la Bible ce qu'on veut. Si vous prenez des textes hors de leur contexte, vous faites dire à la Bible ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils font les sectes. C'est comme ça qu'ils font beaucoup de fausses religions. Ils te prennent un passage dans la Bible, par-ci, par-là, en dehors du contexte, ils me disent « Ah oui, c'est la Bible qui dit ça ». Il y en a beaucoup, même au milieu de nous, qui ont commencé à prendre ce chemin-là. Combien cela est dangereux ? L'obéissance à la parole. Amen. C'est notre protection. Amen. Soyons comme les chrétiens de Bérée. Même un apôtre doit être contrôlé. Et si cet apôtre refuse d'être contrôlé, alors c'est une preuve que c'est un faux apôtre. Parce que si quelqu'un prêche la vérité, il n'a pas peur d'être contrôlé. Amen. Il n'a pas peur d'être contrôlé. Si tu prêches la vérité, pourquoi est-ce que tu as peur ? Pourquoi tu as peur ? Pourquoi tu as peur ? Pourquoi ? Si tu prêches la vérité, tu n'as pas à avoir peur. Au contraire, tu dois dire, oh, formidable, oui, oui. Oh là là, mais il faut faire ça. C'est merveilleux, fais-le. C'est ça. Ah, tu doutes de moi. Regardez l'orgueil. Tu doutes de moi. Ah, c'est parce que tu m'aimes plus. Ah, tu me... Non. Il ne faut pas se laisser prendre par ces sentiments-là. La vérité doit dominer nos sentiments et même toute amitié, quelle qu'elle soit. La parole de Dieu doit être au-dessus de tout, en tout. Pour la gloire du Seigneur, je termine. Septième racine d'un vrai chrétien. Un vrai chrétien est un disciple de Jésus-Christ. Quand il est dit ici, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des... chrétien. Vous voyez, le vrai chrétien, c'est un disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à suivre son maître. Un disciple, c'est un élève qui suit son maître, qui veut ressembler à son maître et qui veut répandre le message de son maître. Amen. Vous voyez, c'est pas seulement être sauvé, alléluia, je suis chrétien. Et puis après, on dit, oh, mais chacun sa petite religion, que chacun se débrouille. Ça, c'est pas un disciple. Ça. Le disciple, il ne parle pas comme ça. Un vrai disciple, il écoute. Il veut être comme son maître. Et il dit maintenant, c'est tellement extraordinaire, il n'y en a pas deux, comme disait, il est le seul. On ne peut pas comparer ce maître avec un autre maître. Ce maître a dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Et ce disciple va partout annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Voilà ce qu'est un vrai disciple. Non seulement il croit, il reçoit, mais il transmet aux autres le message qu'il a reçu. Que le Seigneur fasse de nous de vrais chrétiens. Qui glorifie son nom. Nous serons donc enracinés dans la foi. Et nul ne pourra nous ébranler. Si nous tombons, nous tomberons par terre ou dans les bras du Seigneur. Et que notre vie le glorifie jusqu'à la fin. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Amen.